Nous parlons sur ce thème de la famille depuis plusieurs cultes. Nous avons parlé bien sûr du couple, du mari, de l'épouse, relations du couple qui peuvent être parfois conflictuelles, nous l'avons vu. On a parlé de la responsabilité parentale. J'aimerais qu'on parle ce matin sur l'importance des enfants. L'importance des enfants. Et on va voir que les enfants, non seulement c'est une bénédiction pour la famille, mais qu'en plus ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Et que Dieu aime les enfants, et particulièrement Jésus, on le verra tout à l'heure, s'est occupé des enfants. La plus grande joie pour les parents chrétiens, c'est de voir leurs enfants se tourner vers le Seigneur, donner leur vie à Dieu, et les suivre et les servir. Il y a un adage très célèbre de Tertullien qui disait « On ne naît pas chrétien, on le devient ». Je crois que c'est vrai. Nos enfants naissent dans un foyer privilégié quand on connaît le Seigneur, mais à leur tour, ils devront faire leur expérience et découvrir le Sauveur. Nous croyons que les enfants peuvent faire des expériences avec Dieu, qu'ils ne sont pas exclus de la grâce de Dieu. Ils peuvent faire une expérience durable, profonde, mais c'est à nous parents, responsables, de tout mettre en place pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Alors on va voir deux parties. La première, on va voir quelques exemples dans la parole d'enfants qui ont été utilisés par Dieu. Et puis dans une deuxième partie, Jésus et sa relation avec les enfants, et donc voir tout ce qui en découle. Première partie, les enfants utilisés par Dieu. Alors on a un premier exemple, c'est Samuel. Et là, on peut lire un texte dans 1 Samuel chapitre 3 et au verset 10. 1 Samuel 3, 10. Samuel, l'enfant qui entend la voix de Dieu. 1 Samuel chapitre 3, verset 10 dit ceci. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Sa mère Anne était une croyante fervente et qui aimait beaucoup le Seigneur, mais elle était stérile. Et ceci nous montre qu'on peut être croyant, fervent, aimer Dieu et connaître des difficultés, des maladies ou même des problèmes d'ordre physique. En tout cas, elle a choisi de mettre toute sa confiance en l'Éternel. Et année après année, elle revenait au temple, à Silo, pour prier le Seigneur et pour demander à Dieu un enfant. Alors elle priait, et puis au bout d'un certain temps, la Bible nous dit qu'elle a prié d'une manière tout à fait étrange, en tout cas pour le souverain sacrificateur. Elle a crié à Dieu de tout son être avec des larmes, avec des gémissements. Et c'était tellement intriguant, étonnant que Élie a cru qu'elle était ivre. Or, elle était en prière. Ça nous montre aussi que on peut faire une erreur de jugement qui peut s'avérer gravissime si cette femme avait été exclue à cause de son comportement. Et rapidement, Élie a compris que c'était une prière sincère du cœur, même si l'expression lui était surprenante. Anne, donc, nous dit la parole, a été exaucée par Dieu. Elle a eu cet enfant qu'elle a appelé Samuel et elle l'a sevré. Donc chez les Israélites, c'était entre 3 et 5 ans le sevrage d'un enfant, c'était un petit. Et puis elle a décidé de le conduire. Donc comme elle en avait fait la promesse à Dieu, elle avait dit voilà, si j'ai un enfant, je te le consacrerai. Donc elle a mis en pratique ce qu'elle avait dit. L'enfant est arrivé une fois qu'il était sevré. La Bible dit qu'il était encore tout jeune, c'est dans 1 Samuel 1, 24. L'enfant était encore tout jeune et voilà qu'elle l'a apporté à l'Éternel. La Bible dit un peu plus loin, chapitre 2, verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Il n'était encore qu'un enfant, mais la Bible nous dit que déjà, il était utile pour le service dans le temple. Revêtu d'un éphod de lin, avec un vêtement particulier, donc il aidait le souverain sacrificateur. Un peu plus loin, la Bible dit « Le jeune Samuel continuait à grandir, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Et on voit les qualités chez cet enfant qui se développe. Il aimait le Seigneur, ce qu'il faisait était bien, il était fidèle. Et donc, toutes des qualités qu'on trouve normalement chez un adulte converti. Mais déjà, chez Samuel, il y avait cela. Et quelques temps encore après, quelques années, on estime peut-être à l'âge de 12 ans, l'âge où Samuel a entendu la voix de Dieu. C'est d'après Joseph, un historien juif qui avait certaines sources et qui a défini cet âge-là. Bien sûr, ce n'est pas indiqué dans la Bible, mais on peut considérer cet âge approximatif comme correct, une douzaine d'années. Et Samuel, pour la première fois, entend cette voix la nuit. Samuel, Samuel, vous connaissez ce récit où Dieu va commencer à lui parler. Il ne sait pas encore que c'est la voix de Dieu. Et croyant que c'est son responsable, donc Élie, il va le voir en lui disant « Me voici, tu m'as appelé ?» Et puis le souverain sacrificateur lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé. » Puis l'opération se répète trois fois. La troisième fois, Élie se rend compte que c'est Dieu qui est en train de parler. Et il lui dit « Bien, tu diras au Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. » Alors Samuel a simplement fait ce qu'Élie demandait. Ceci nous montre que Dieu est en train de parler à un enfant. Mais Élie était habitué, en tant que souverain sacrificateur, à entendre la voix de Dieu. C'était le canal naturel, le canal normal par lequel Dieu parlait. Élie. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que Élie était devenu sourd à la voix de Dieu. Et cela peut arriver aux chrétiens qui, à cause du compromis, alors dans la vie d'Élie, c'est le compromis qui était rentré, c'est une situation anormale. Ses fils, qui étaient coupables de grands péchés, dit la parole, qui profitaient des offrandes, c'est-à-dire quand on venait apporter soit de la viande ou des choses à sacrifier, eh bien ils prenaient la meilleure partie pour eux, ou alors ils allaient coucher avec des femmes, ceci était inconvenant, anormal, c'était inadmissible, et pourtant Élie, responsable spirituel, il nous a dit que, bien qu'il leur a dit les choses, que ce n'était pas bien, il leur a dit, mais il ne les a pas arrêtés dans leur fonction, il n'a pas pris ses responsabilités d'homme de Dieu, lui qui devait être le gardant, on va dire, de l'ordre moral et spirituel dans le sanctuaire, eh bien il a laissé le laxisme progressivement s'installer, et quand il a repris ses fils, ça n'a eu aucun impact. On se rend compte donc qu'il était devenu sourd à la voix de Dieu sur la fin de sa vie, ayant laissé de mauvaises choses s'infiltrer dans le temple. Alors, Dieu a choisi, ce qui est étonnant dans les choix de Dieu, c'est qu'il a choisi un simple enfant pour se faire entendre. Et c'est à Samuel, un jeune enfant d'une douzaine d'années, que Dieu va révéler le grand jugement qui va tomber sur la famille d'Élie. Il ne va pas le dire directement à Élie, il va passer par Samuel. Et cet enfant qui avait un cœur pur, simple, eh bien, a reçu la pensée de Dieu. Regardez 1 Samuel chapitre 3 et le verset 19. Pour vous montrer comment ce jeune garçon est utilisé de manière prophétique par Dieu. 1 Samuel 3, 19, il est dit « Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Ça veut dire que quand Samuel prophétisait, parlait de la part de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, tout ce qu'il disait, Dieu l'accomplissait parce que ça venait de Dieu. Ses paroles ne tombaient pas à terre, elles étaient accomplies. Ça, pour nous, ça signifie trois choses. Premièrement, que tout est possible à Dieu, c'est-à-dire qu'il utilise qui il veut, quand il veut, à la manière qu'il veut, même si on peut dire que un enfant, quelqu'un dira « Oui, mais c'est trop petit, qu'est-ce qu'il peut faire ?» etc. Ben non, Dieu a décidé de parler à un enfant. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que Dieu n'est pas limité. Il y avait des structures officielles, il y avait Élie, le souverain sacrificateur, il y avait des sacrificateurs, etc. Mais Dieu est passé par un enfant et il n'est pas limité par une organisation ou des choses instituées. Et il peut passer d'une manière tout à fait étonnante. Et troisième chose qu'on peut relever, c'est que Samuel avait une destinée. Nous avons une destinée. Dieu nous appelle, Dieu nous donne des directions et Dieu a un plan pour notre vie. Et cet enfant, Dieu ne voyait pas simplement un enfant, mais il voyait déjà le futur prophète de l'Éternel, celui qui allait conduire le peuple dans ses voies. Et quand Dieu nous voit ce matin, il voit aussi notre destinée, c'est-à-dire ce que nous sommes appelés à être en Christ. Pour chacune de nos vies. Alors là, c'était le cas d'un enfant, mais c'est important de le relever parce que Samuel a été utilisé par Dieu d'une manière extraordinaire. Je pense à un deuxième exemple, alors on peut le passer, c'est David. On va aller dans 1 Samuel chapitre 17 et verset 33. David, c'est l'enfant qui triomphe du géant. 1 Samuel 17, 33. C'est Saül qui lui dit à ce moment-là, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » La Tob le dit, tu es incapable, la version Tob, tu es incapable d'aller te battre avec ce Philistin, tu es un incapable, tu n'es qu'un gamin. Voilà comment ils traduisent. Effectivement, David était un jeune garçon, on pourrait dire adolescent aujourd'hui, dans cet âge-là, et le dernier d'une famille de 8 frères. La Bible nous les présente, et lui, il est dit qu'il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Il vivait encore chez ses parents, il avait cette petite responsabilité de garder les brebis de son père, et puis il le faisait correctement. Mais son père n'avait pas jugé utile de convoquer ce jeune garçon lorsque le prophète Samuel vient chez lui, et le prophète Samuel va voir tous ses fils parce qu'il voulait prier pour le nouveau roi d'Israël. Et arrivé au septième fils, il dit, mais est-ce que tous tes fils sont là? Parce que Dieu m'a montré, c'est aucun d'eux. Et pourtant, ça devait être un fils d'Isaïe. Et puis là, on fait venir ce jeune Samuel qui n'était pas convoqué. Et tout de suite, l'Éternel parle à Samuel et dit, c'est lui, c'est lui. Il entendait encore la voix de Dieu qui était en train de lui montrer, c'est lui, le nouveau roi d'Israël. Dieu n'a pas choisi David, parce que on a dit son physique, il était beau, avec de beaux yeux, une belle figure, c'est pas à cause de ça. Mais la Bible nous dit que David avait un cœur selon l'Éternel. Et c'est à cause de son cœur, ses dispositions, bien qu'il était très jeune, mais il aimait déjà le Seigneur et il l'avait mis à la première place. Ceci a fait toute la différence dans le choix de Dieu et dans la vie de David. David, donc, par la suite, a été envoyé par son père prendre un peu des nouvelles des frères qui étaient sur le camp de bataille. Et il a donné à David des victuailles pour nourrir ses frères, apporter toutes sortes de choses à manger. Mais en arrivant, David est impressionné par ce géant et puis surtout les insultes, parce que Goliath était en train d'insulter Dieu, d'insulter l'armée de l'Éternel. Il se prenait pour le grand vainqueur. Et il disait, voilà, si quelqu'un ose m'affronter, eh bien le vainqueur sera le conquérant des peuples. Donc si Goliath gagne, eh bien c'est les Philistins qui triomphent d'Israël. Et puis si c'est un Israélite qui gagne, c'est les Philistins qui se soumettent. C'était une sorte de défi. Et lorsque David entend cela, il est touché dans son cœur parce qu'il aime l'Éternel et il ne supporte pas que le nom de l'Éternel soit insulté. Tous les guerriers sont là. Le peuple d'Israël, on peut les imaginer, ils sont tous là, tous des hommes de guerre. Il n'y en a pas un qui ose relever le défi. Mais David, qui n'a aucune expérience, eh bien, il dit, moi j'irai me battre. Et il est présenté devant le roi, et il dit ceci, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, j'irai me battre avec lui. Alors c'est des paroles de foi, c'est des paroles d'enthousiasme, et voilà la réponse qu'on a lue, la réponse de Saül. La réponse de Saül qui va tout faire pour dissuader David d'aller au combat. Il lui dit, premièrement, tu ne peux pas, tu es un incapable, tu n'as pas d'expérience dans les combats, tu ne sais pas comment il faut faire. N'oublions pas que David s'adresse à des hommes de guerre qui ont déjà combattu. Lui n'a jamais combattu. Il a des gens âgés, expérimentés. Lui n'a aucune expérience et il est jeune. Ça pouvait paraître de la présomption de sa part. On aurait pu dire, mais c'est un orgueilleux. D'ailleurs, c'est ce que ses frères ont dit. Toi, tu n'es qu'un orgueilleux. Et pourtant, il était vraiment conduit par Dieu, envoyé par Dieu. Mais le roi lui dit, tu ne peux pas. Et peut-être vous entendrez aussi cette parole quelquefois de gens qui vous diront, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas, etc. Et surtout particulièrement aux enfants, on leur dit souvent, tu ne peux pas. Deuxième chose, tu n'es qu'un enfant, qui lui dit. Tu n'es qu'un enfant. Tu es le plus faible. Si on te compare avec l'autre géant, tu ne fais pas le poids. Tu n'as même pas de. Il n'avait pas de grande musculature, David. Il n'était pas dit qu'il était particulièrement fort. Si on pense à Samson, par exemple, il avait une force extraordinaire. On aurait pu dire, Samson a plus de chance. David, il était tout à fait une musculature normale, sans grande force particulière. Donc le roi lui fait remarquer, toi tu n'es qu'un enfant, tu n'y arriveras pas. Et puis enfin, il lui dit, troisième chose, ton ennemi est plus fort que toi. En lui disant, que Saül a plus d'expérience, que c'est un homme de guerre depuis son enfance. En fait, qu'est-ce que fait Saül? Il est en train de chanter les louanges de son ennemi. Et il lui dit, voilà, le plus fort c'est lui. Et nous sommes les plus faibles. Et il y a des chrétiens qui sont les champions pour se dénigrer et pour chanter leur défaite. Et pour dire, mais c'est vrai, Dieu répond pas, Dieu n'agit pas, Dieu fait rien dans ma vie, alors toutes les choses négatives. Alors comment voulez-vous louer le Seigneur après? Quand on ne passe sa journée qu'à ne voir ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, etc. Donc, eh bien, Saül est dans cette position de défaite, et il dit, mais l'ennemi, c'est le plus fort. Mais nous, chrétiens, nous devons refuser toutes ces pensées-là, puisque nous savons que Dieu est le plus fort. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc nous avons Dieu avec nous, et nous n'avons pas un langage défaitiste. Pourtant, on peut dire que Saül dit trois vérités importantes. Effectivement, David n'est pas un homme de guerre, c'est un enfant. Et effectivement, à première vue, le Philistin Goliath a beaucoup plus de chances de l'emporter. Cependant, ces trois vérités sur le plan humain sont trois erreurs si on les analyse sur le plan spirituel. Parce que selon la sagesse divine, eh bien, David pouvait quand même le remporter. David était un enfant, mais Dieu était avec lui. Et puis enfin, si Dieu était avec lui, il était plus fort que son ennemi. Donc toutes ces vérités pouvaient être renversées selon les jugements de Dieu. Rien ne va entamer pourtant la détermination de David. Il va même refuser cette armure, vous savez, que Saül va lui demander de mettre pour le protéger. Et il va aller avec cette simple fronde et surtout une foi infaillible dans le Dieu qui peut tout faire. C'est ça qui va permettre que du premier coup, eh bien, il puisse triompher. Alors, il n'y va pas d'une manière abattue, vous voyez, désemparée, désarmée, perdant d'avance, mais il y va avec la foi. Il n'est pas impressionné par la taille de cet homme, environ 2,96 m, un géant. Il n'est pas impressionné par ses paroles, qui sont des paroles contre Dieu, il dénigre Dieu. Il n'est pas impressionné par ses armes et sa musculature, mais il court contre lui au nom de l'Éternel, dit la Bible, et d'un seul coup de pierre, il le met à terre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, frères et sœurs. Et d'un jeune garçon, eh bien, il a pu triompher d'un homme que tout le monde considérait que c'était impossible de le vaincre un jour. Ce jeune garçon a donc eu plus de foi, plus de détermination que tout le peuple d'Israël réuni. Pourquoi? Parce que Dieu était dans son cœur et ce que Dieu disait pour lui, c'était la vérité. Il était intègre, il était entier pour Dieu. Et il n'y a pas d'âge pour commencer à faire des exploits. Même les enfants sont capables d'aller de l'avant. Alors ne les considérons pas comme incapables, un petit peu comme le roi Saül qui disait « tu ne peux pas ». Ne les considérons pas comme trop petits, inférieurs, mais ils sont capables de choses plus étonnantes encore que ce que nous pouvons penser. Troisième exemple, c'est la servante de Naaman. Là, on va dans 2 Rois, chapitre 5, et au verset 3. 2 Rois, chapitre 5, et le verset 3. Voilà l'enfant qui va témoigner de la puissance de Dieu. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Il y a dans ce récit un contraste saisissant entre la vie de Naaman, sa vie publique, et sa vie dans son être physique. Dans sa vie publique, il est chef militaire d'armée, général, puissant du royaume de Syrie, apprécié du roi. Et il avait même, la Bible dit, été un instrument de Dieu pour accomplir des choses par Dieu. C'était un homme estimé par son pays et un homme fort et vaillant, dont le physique, lui, était remarquable, un homme conquérant, un homme extraordinaire. Mais la Bible dit aussi qu'il y avait une maladie qui détruisait son corps à petit feu, c'est la lèpre. Et ce qui nous fait réaliser qu'on peut être riche et avoir de bonnes choses dans ce monde, et pourtant connaître une maladie grave, une maladie incurable, une maladie pénible. Alors, c'est là que cette petite fille intervient. Une petite fille qui avait été emmenée captive lorsqu'il y avait eu justement une attaque en Israël. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard, voyez-vous. Et Dieu savait que cette petite fille, si elle était emmenée en captivité, eh bien, elle allait servir de témoin auprès d'une personne haut gradée, un grand général, et ce qui nous montre que Dieu veille sur toute chose. Cette petite fille est remarquable pour plusieurs choses. Premièrement, elle n'a pas dans son esprit un état de vengeance, un état d'esprit de vengeance. Elle ne désire pas le mal de cet homme qui pourtant l'a emmenée en captivité. Elle aurait pu être remplie d'amertume et lui vouloir du mal. L'autre chose qu'on voit, c'est qu'elle est sincèrement affectée par la situation de cet homme qui est bien malheureux, bien triste, et elle voit la condition de son maître. En fait, elle manifeste toute la compassion de Christ. Déjà, elle a dans son cœur de l'amour et elle se dit « Oh, le pauvre homme, il faut faire quelque chose pour lui ». Et la troisième chose qu'on voit concernant cette fille, cette jeune fille, c'est que elle va pas avoir peur de parler des miracles de Dieu à sa maîtresse. Elle va témoigner de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu de Dieu dans le pays où elle était. Alors elle sait dans son cœur d'enfant que Dieu peut guérir. Dieu peut guérir n'importe quelle maladie à n'importe qui. Ça, elle le croit dans sa foi d'enfant, y compris le Syrien. Ce qui nous montre qu'elle a une conception de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu impressionnante. Parce qu'elle croit que Dieu aime déjà cet homme, qui pourtant n'est pas d'Israël. Donc ça nous parle de la grâce, que Dieu veut faire grâce à tous. Et puis ça nous parle aussi de cette réalité dans son cœur, qu'elle est capable de croire que Dieu peut guérir n'importe quelle maladie, même les maladies incurables. Alors Naaman va écouter sa femme, puisque la petite fille a parlé d'abord à la maîtresse. La maîtresse a rapporté donc à son mari. Naaman aurait pu négliger cette affaire-là en disant « c'est des paroles d'enfant, ça n'a aucune valeur ». Mais il va prendre au mot cette petite fille. Et si bien que ce qui est extraordinaire, c'est que ce témoignage, simple enfant, il va monter jusqu'au roi de Syrie, parce que le général va rapporter au roi les propos de la petite fille, et le roi lui-même va entendre parler du Dieu d'Israël qui est capable d'accomplir des miracles. Vous rendez compte, le témoignage d'un enfant, jusqu'où ça peut avoir des répercussions, jusque dans les plus hauts sommets du gouvernement, là. Alors Naaman a bien fait d'écouter cette petite fille, on sait la suite du récit, puisqu'il a été entièrement guéri de la lèpre. Quatrième exemple, dans le Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 8, si on regarde ce texte, c'est l'enfant qui a les 5 pains et les 2 poissons. Jean chapitre 6, verset 8. C'est un enfant qui va tout donner à Jésus. Alors, ce texte dit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Les disciples sont ici embarrassés parce que la foule est là et puis ils auraient bien aimé renvoyer la foule à la maison, mais Jésus leur a dit, « Voyez la foule, vous allez les nourrir. » Et les disciples sont en train de se demander, « Mais comment on va faire? Il est tard. » C'était vers le soir, tout est fermé, ils sont loin de la ville, pas de commerce à proximité, pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils sont en train de discuter. Philippe, apparemment, c'est le disciple le plus sérieux, il est en train de calculer combien d'argent il faudrait pour nourrir toute cette foule. La seule chose qu'il ne considère pas, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Mais il calcule quand même et il dit, voilà, 5000 hommes multipliés. Alors il faut compter les femmes, donc ça fait 10 000, peut-être 15 000, avec les enfants. Allez, 15 000 personnes. Et puis, il va donc définir par un calcul, il arrive à 200 deniers, ce qui fait environ 10 000 euros. 10 000 euros. Et il dit au Seigneur, mais vois-tu, Seigneur, même avec 10 000 euros, on n'aurait même pas assez pour pourvoir à toute cette foule. Ça faisait à peu près 1,50 € par personne. Alors, c'est là qu'André, alors qu'ils sont dans ces discussions de calcul très importants, André arrive avec un petit enfant qui a son panier avec 5 pains et 2 poissons. Et là, ça faisait pas très sérieux. On était en train de calculer les milliers d'euros que ça allait coûter, cette entreprise. Et voilà qu'un autre disciple arrive avec juste 5 pains et 2 poissons. Lui-même, il se sent un petit peu honteux d'arriver avec ça parce qu'il dit au Seigneur, mais qu'est-ce que cela, 5 pains et 2 poissons, pour tant de gens? Il se rend bien compte que ce qu'il fait, c'est pas ça qui va donner la solution. Et pourtant, la Bible dit que cela, c'était la solution de Dieu, que peut-être on avait négligé, on considérait comme inutile, mais que André a eu le courage de présenter jusqu'aux autres, quitte à passer pour un peu étrange. Mais en tout cas, Jésus a relevé cela. Et ce qu'on peut noter, c'est la foi de cet enfant qui a une foi toute simple. Il n'a pas caché sa nourriture pour la garder pour lui, mais il a tout donné. Il donne tout, ne sachant pas si lui-même va récupérer quelque chose, parce qu'il ne sait pas ce que Jésus va faire avec. Mais Jésus va prier et il va y avoir la multiplication des pains, des poissons. On voit que cet enfant va partager le peu qu'il a avec tous ceux qui sont autour de lui. Il ne vit pas dans l'égoïsme, mais il vit dans la foi, il vit dans l'espérance. Un beau témoignage qui nous montre que nous aussi, on doit faire confiance au Seigneur. Et pour les 12 disciples incrédules, il est resté 12 paniers pleins de morceaux de pain qui restaient. Ce qui nous montre que le Seigneur a pourvu avec plus que ce qu'il fallait, alors qu'il est parti de presque rien. Mais à la base, c'est un enfant qui était là. Deuxième partie, peut-être on va s'intéresser à Jésus par rapport aux enfants. Et là, j'aimerais lire avec vous un texte dans Marc chapitre 10. Donc, premier point, leur valeur aux yeux de Jésus. Marc chapitre 10, verset 13. Alors, je vous invite à lire ce texte, très important, où on va voir combien les enfants sont aimés par le Seigneur. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Voilà ce que chaque parent, donc responsable, est censé faire avec ses enfants, c'est les amener à Jésus, les amener au seul Sauveur. Les autres évangiles nous précisent que même les parents avaient pour but que Jésus leur impose les mains et qu'il les bénisse, qu'il prie pour eux. Donc ils voulaient que leurs enfants soient au Seigneur. Les disciples ont souvent mal utilisé leur autorité et, encore une fois là, avec l'autorité qu'ils avaient, ils ont tout simplement rabroué tous ces parents, ces gens qui venaient avec leurs enfants, pour les éloigner du Seigneur. Les autres évangiles disent les disciples les reprenaient, ils les repoussaient, ils les éloignaient de Jésus. Alors ils étaient vraiment déterminés pour que Jésus ne soit surtout pas dérangé par les enfants. Ils avaient mis tout un service d'ordre et c'était difficile de canaliser ces enfants. Vous imaginez un enfant ça bouge déjà, ça fait un peu de bruit, mais une multitude d'enfants qui étaient là, c'était difficile, ça faisait du bruit. Les parents voulaient les amener à Jésus, les disciples essayaient de faire blocage, c'était compliqué. Ils pensaient, les disciples, que Jésus n'avait pas de temps à perdre avec des enfants. Pour eux, c'était bien ce qu'ils faisaient, finalement. Et remarquez la réaction de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Il est dit, c'est rare de voir ça de la part de Jésus, verset 14. Voyant cela, Jésus fut indigné. C'est ce mot indigné qui est un mot très fort, qui exprime la colère que Jésus a eue. C'est un mot qui montre que l'attitude des disciples n'était pas digne de Jésus et que ce qu'ils faisaient là n'était pas bien. La version Jérusalem a traduit plus fort encore, elle a traduit « Jésus se fâcha ». Ce verset nous laisse entendre que le Seigneur a repris devant tous ses disciples qui étaient vraiment à côté de la volonté de Dieu. Alors on parle souvent que Jésus nous aime, que Jésus prend soin de nous, Jésus nous écoute, etc., nous bénit. Mais voyez que Jésus nous reprend aussi et qu'il peut se mettre en colère, il peut s'indigner par rapport à notre inconséquence, notre comportement qui n'est pas dans sa volonté. Alors quelle est la volonté de Jésus par rapport aux enfants? Il l'exprime très clairement, verset 14, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi. » Voilà la volonté de Jésus. Pour Jésus, ses enfants, ils ont une grande valeur. Ils s'intéressent à eux. Pour Jésus, ils sont importants. Ils sont dignes d'intérêt. Tout le contraire de ce qu'avaient pensé les disciples. Les choses spirituelles ne sont pas accessibles uniquement aux adultes. Et Jésus a pris le temps de partager aux enfants. Jésus va demander, même aux grands, de redevenir comme des enfants et d'avoir une foi simple comme des enfants. Alors voilà, Jésus va mettre en avant leur foi. Un enfant va croire tout naturellement ce qu'un adulte lui dit, il fait confiance, il se rend compte de ses limites. crois que le Seigneur veut nous montrer qu'il nous faut devenir comme des petits-enfants, d'avoir ces qualités, on va dire ces qualités enfantines, comme la conscience de notre faiblesse, réaliser que si on met notre main dans celle de Dieu, notre Dieu est tout-puissant. Vous voyez, tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Croire Dieu. Les enfants nous parlent de petitesse, d'humilité, de confiance, de candeur, de simplicité. Toutes ces choses, nous devons les retrouver pour connaître davantage les choses de Dieu et avancer avec Dieu. Ce qui paraissait totalement inutile aux disciples, eh bien pourtant aux yeux de Jésus, c'était très important. Ne nous trompons pas, frères et sœurs, dans nos priorités. Les enfants sont dignes d'intérêt du Seigneur. Et nous devons le considérer aussi nous-mêmes, que c'est important les enfants, il ne faut pas les négliger. Deuxième texte encore qui appuie cela, Matthieu 18, donc le point suivant, on va voir leur foi. Matthieu chapitre 18, verset 1. On a parlé de leur vraie valeur, de la valeur qu'ils ont, oui, aux yeux de Dieu. Deuxièmement, leur foi simple. Dans ce récit, il est dit, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ici, donc, les disciples sont en train de discuter d'une question à leurs yeux d'une haute importance, c'est-à-dire qui est le premier dans le royaume de Dieu, qui va être utilisé, qui est le meilleur. Et les disciples sont toujours dans cette notion que Jésus va implanter son royaume terrestre. Que Jésus est venu pour régner et que Jésus va régner avec eux. Alors pour eux, c'est très important de savoir qui va être aux côtés du Seigneur pour régner avec lui, pour, etc., faire des choses. Donc, ils se posaient la question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors, c'est des fois étonnant ce que les adultes peuvent se poser des questions qui, aux yeux de Dieu, n'ont aucun intérêt. Et là, c'était le cas. Jésus va leur montrer que c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir, qu'on doit raisonner. C'est des questions futiles, ça. Et devant ces hommes d'âge mûr, il va prendre un petit enfant et il va le mettre au milieu d'eux, eux qui ont passé la trentaine, la quarantaine, qui sont des hommes déjà bien avancés. Ce petit enfant qui paraît si insignifiant, frêle, fragile, eh bien, il va leur dire, voilà, vous allez devenir comme cet enfant. Vous allez faire demi-tour, c'est le mot convertir. Si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire ce que Jésus veut dire, faire demi-tour. Mais faire demi-tour, c'est-à-dire de notre vie d'adulte, dans le contexte, et de redevenir avec une foi simple comme un enfant. Faire demi-tour, c'est la simplicité des enfants, la confiance et la foi qui dominent. Se rendre humble, dit Jésus. L'enfant est dépendant de ses parents, il sait qu'il a besoin d'eux, il sait qu'il y a des tas de choses qu'il ne peut pas faire tout seul. Donc Jésus leur dit cela, vous allez considérer vous-même comme des petits-enfants. Que fait le Seigneur ? Il remet en avant les véritables valeurs du royaume de Dieu. C'est-à-dire pour Jésus, le plus petit dans le royaume, c'est le plus grand. Celui qui est le plus faible, c'est le plus fort. Celui qui paraît le plus insignifiant, c'est celui qui a le plus de valeur. Donc Jésus est en train de communiquer dans sa réponse les vraies valeurs spirituelles qui sont en Christ. Au verset 5, Jésus va jusqu'à dire que quand nous recevons ses enfants, c'est Jésus lui-même que nous recevons. Ce qui veut dire que les enfants ont une grande valeur. Jésus lui-même se met au niveau des enfants. Lui qui est le grand Dieu de l'univers, il s'identifie aux enfants. Ces enfants qui sont si humbles d'apparence, eh bien pour Jésus, ils sont dignes de respect. Et rappelez-vous que Jésus lui-même a été un petit enfant et qu'il a grandi pour devenir adulte. Verset 6, il est dit qu'il ne faut pas les scandaliser. Ce qui signifie qu'il ne faut pas être pour eux une occasion de chute, c'est-à-dire les détourner de la foi, les faire trébucher, les éloigner du Seigneur. Parce que la Bible dit, le Seigneur jugera très sévèrement toutes ces personnes qui auront éloigné de Dieu des enfants, éloigné de Jésus. Alors, vous voyez, dans ce texte, ça nous montre vraiment l'importance des enfants. Troisième exemple, dans Matthieu 18, un peu plus loin, c'est au verset 10, on voit la volonté de Jésus à l'égard de ses enfants. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, dit Jésus, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous en semble ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, retenez bien ce verset 14, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. » Et on est toujours à la suite de ce texte qu'on a lu concernant les petits-enfants. Donc on voit bien le Seigneur veut les sauver, qu'il veut les avoir pour lui pour toujours. La volonté de Jésus, c'est le salut. D'abord, il est question des anges. Vous avez remarqué, les anges qui sont dans le ciel et qui veillent sur ces petits, qu'on a parfois appelés les anges gardiens. Ce n'est pas une expression qui est dans la Bible. C'est des hommes qui ont appelé cela comme cela. Ce qu'on peut dire sur ces anges, c'est d'abord, premièrement, qu'il y en a plusieurs. Il est dit que ces petits, il y a leurs anges au pluriel dans les cieux. Il y a plusieurs anges. Ce n'est pas forcé de considérer qu'il y a un seul ange par personne, mais qu'il y a plusieurs anges. Voilà, il y a des gens qui veillent. Ensuite, que les anges sont au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur des croyants. Ça, c'est la Bible qui nous l'apprend. Les anges, donc, sont là, ils sont attentifs et ils peuvent intervenir selon nos besoins. Et puis, autre chose qu'il est dit, c'est qu'ils voient continuellement la face de Dieu. Ça, c'est une expression d'origine orientale utilisée dans les cours royales qui signifie ceci. Ils ont libre accès à la présence du souverain ou ils sont puissants auprès de lui. Voilà, donc ils reçoivent leur autorité de Dieu et ils interviennent en faveur de nous. On ne peut pas dire grand-chose d'autre sur les anges à ce niveau-là, puisque la Bible ne nous donne pas d'autres informations. Et puis la parabole de la brebis perdue, qui est appliquée ici au petit qui est perdu, à l'enfant qui est perdu, l'enfant qui ne connaît pas le Seigneur. Eh bien, pour Dieu, c'est important, comme cette brebis perdue, c'est une âme qui est à sauver, c'est une âme qui a besoin de Dieu. Et l'enfant, plus il entendra tôt parler du Seigneur, meilleur ce sera pour lui, et il recevra ainsi de bonnes bases pour sa vie. Donc, le salut des enfants, c'est important. Maintenant, quelqu'un a posé la question, mais qu'en est-il des enfants qui meurent et en bas âge? Est-ce qu'ils sont sauvés ou pas? Est-ce qu'ils vont près de Dieu ou pas? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que la Bible ne répond pas à cette question directement. Il n'y a pas de texte qui nous montre si les enfants en bas âge vont au ciel ou pas. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que le baptême ne sauve pas. Il y a des gens qui font baptiser leurs petits-enfants, croyant que le baptême va permettre leur salut. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la foi. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont baptisés qu'ils iront davantage au ciel ou pas. La troisième chose qu'on peut dire, c'est que d'après la révélation générale de la parole, on sait qu'il y a un âge dans lequel on doit se décider pour le Seigneur contre ou ne pas accepter la grâce de Dieu. Les enfants en bas âge n'ont pas atteint l'âge de raison. Ils sont incapables de choisir le bien et le mal, de choisir être pour ou contre Dieu. Donc on peut considérer que Dieu va les accueillir dans son ciel. C'est une déduction. Ce n'est pas directement écrit dans la parole, mais nous pouvons le penser ainsi. Ainsi, il y a un âge quand même où l'enfant grandissant, avançant dans la vie, dans l'existence, bien il devra prendre conscience de l'existence de Dieu, accepter ou rejeter le message de l'amour de Dieu. Ça sera sa responsabilité. Un dernier texte peut-être, pour nous montrer la louange des enfants, c'est le quatrième point, c'est Matthieu 21, verset 15. Les enfants vont louer le Seigneur dans le temple. Matthieu 21, 15. Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna, au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu cette parole ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Nous voyons Jésus ici dans le temple, et lorsqu'il est rentré, il a commencé par faire une sorte de grand nettoyage, à renverser les tables des changeurs. Il y avait toutes sortes de compromis dans ce temple, du marchandage malhonnête, des animaux qui étaient là, etc. Il y avait une sorte de corruption, plus ou moins admise, qui était installée. Et Jésus a tout renversé. Il a dit, voilà, ma maison, ça sera une maison de prière. Jamais personne n'avait osé faire ça, dans un lieu saint. Et cependant, ce qui a choqué encore le plus les pharisiens et les scribes, c'est les cris des enfants qui disaient « Hosanna au fils de David ». Et ils étaient en train de se boucher les oreilles en disant « Mais c'est une insulte ». Pour eux, c'était vraiment du blasphème. Il fallait faire taire ces enfants. Ils disent au Seigneur « N'entends-tu pas ? C'est honteux ce qu'ils sont en train de dire ». Et Jésus va agréer leur louange. Il ne va pas les reprendre, mais au contraire, « Hosanna », il va les laisser dire Hosanna, Hosanna qui signifie sauve maintenant ou sauve nous t'en prions, qui est tiré du psaume 118 verset 25. Vous pourrez lire ce passage qui dit Ô Éternel, accorde le salut. En hébreu c'est Hoshiana qui est devenu en grec Hosanna, Hosanna qui est devenu par la suite aussi un cri de joie, un cri de bienvenue à l'égard du Seigneur. Hosanna, ils le chantaient, ils le criaient de tout leur cœur. Et puis au fils de David. Donc ces enfants réalisaient que Jésus était le roi, le Messie qui devait venir. Bref, ils étaient bien avancés, plus avancés que les pharisiens. Pourtant, ce n'étaient que des enfants. Et déjà, ils louaient le Seigneur de tout leur cœur. Et Dieu agrée la louange des enfants. Jésus n'a pas dit, voyez, ils sont trop petits pour louer le Seigneur. Il a cité ce psaume, « Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants. » Dieu soit béni pour les enfants qui peuvent déjà louer le Seigneur. C'est à nous de leur montrer l'exemple, de les encourager, de louer avec eux aussi. Et puis le Seigneur va apprécier ces choses-là. En conclusion, on va terminer maintenant. Conclusion, les enfants, on a parlé de leur importance. Les enfants ont une place non négligeable dans l'œuvre de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et nous devons les aimer. Nous devons les considérer à la même manière que Jésus l'a fait. Il a pris le temps, il avait un agenda très chargé, mais vous voyez, il a pris du temps pour les enfants. Les disciples ne voulaient pas, mais lui, il a dit non, je vais décaler des rendez-vous, je vais décaler des choses. Je prends le temps pour parler avec les enfants, pour les bénir, pour m'en occuper. Et nous croyons que si le Seigneur l'a fait, nous devons le faire aussi pour nous occuper de nos enfants, de ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui s'approchent de Dieu. Bien que Dieu nous fasse grâce et nous permette de nous rendre compte de cette importance qu'ont les enfants dans le cœur de Dieu. Merci pour ta parole. Nous voyons combien tu aimes les enfants, tu les considères avec cette valeur immense. Tu nous aimes tous également, il est vrai. Et nous voulons te prier pour ces jeunes cœurs afin qu'ils soient réceptifs au message d'amour, au message de l'Évangile. Merci parce que tu les as utilisés, parce que tu es capable, Seigneur, de te révéler à leur jeune cœur, de te faire entendre et de nous étonner encore. Loué sois-tu, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu plein d'amour qui veille sur chacun. Bénis les enfants de notre assemblée. Permets que d'autres encore entendent parler de ta grâce et de ton amour. Et garde-nous dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen.